on enchaîne. Il y a énormément de choses qui ont été dites sur la bande dessinée et je reprends un tout petit peu ma casquette d'enseignant puisque c'est ce que je rejoins cet après-midi. Et il y a beaucoup de choses que je retrouve, à savoir, moi j'enseigne vis-à-vis d'adultes qui sont là par choix, c'est pas diplômant, donc c'est au sein des ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris. Et donc j'ai en face de moi des gens qui très régulièrement me disent « je ne sais pas dessiner ». Et hormis que je ne sais pas ce que signifie « je ne sais pas dessiner », je sais ce que signifie le fait de dessiner et le fait de ne pas dessiner, mais je me pose toujours la question de ce que signifie le fait d'avoir su dessiner quand on était petit et de plus savoir dès qu'on sait écrire et lire. Je ne comprends pas. C'est un petit peu, on dessine ou on dessine pas, certes, mais ça signifie qu'on a une image mentale du dessin qu'on n'arrive pas à s'en approcher. Mais là, je vous rassure, ce hiatus ne cesse jamais. donc, dessinons. Il y a même le... J'ai même dessiné le renouvellement de la convention. Pardon ?
À quel point vous êtes consciencieux ?
Oui, c'est ça. Donc on arrive à aujourd'hui. J'ai bien aimé ce matin aussi un certain nombre de d'interrogations sur ce qui fait bande dessinée, à savoir les questions du cadre, les questions de ce qui se passe entre les cases. Là, vous remarquerez que ça s'apparente à de la bande dessinée, ce sont des notes dessinées, il n'y a pas de cases. Et pourtant, j'essaye de séquencer de telle façon à ce que une lecture se fasse entre cette absence de cases. Donc il y a des cases même quand il n'y a pas de cases. Un truc aussi, c'est... Alors là, je suis obligé d'arrêter mon dessin. J'ai peu de temps et je suis obligé aussi d'arrêter mon dessin pour réorganiser une page très vite. Une remarque aussi, c'est que le cadre... Je vous donne un petit truc. En bande dessinée, tout ce qui est hors champ est bien dessiné. C'est tout bête, mais si maintenant vous avez des problèmes avec les mains et que vous faites un gros plan sur un visage qui est en train on entend « sors les mains de tes poches », et ben nous, mentalement, on va évidemment concevoir que ce personnage a des mains et qu'il faut qu'il les sorte de ses poches. Et elles seront dans le même style que ce visage qu'on arrive bien à dessiner. Donc il y a comme ça des petits moyens de s'en sortir. Et c'est une vraie remarque, hein. C'est pas qu'une boutade. Tout ce qui est hors champ est bien dessiné. C'est un truc qui est utilisé dans la bande dessinée, c'est classique. Justin, tu montrais les airs... Non, pardon, c'était Philippe qui montrait les erreurs de Van der Steen, par exemple. Mais il y a l'effort de mettre en scène, il y a vraiment ça, mais il y a aussi des moyens d'arriver à des échappatoires. Et j'ai souvenir de certaines bandes dessinées classiques des années 50 où on se disait, mais il nous fait voyager en Inde à New Delhi, et il a juste une pauvre photo et après c'est des gros plans, quoi. Oui, mais le lecteur, il embraye. Il conçoit, on peut aussi tabler sur son imaginaire. J'ai un petit peu mis en scène le fait qu'on avait une visio.
Moi, je peux continuer dans mon exercice d'admiration par rapport à ce que propose Dominique, parce que je trouve que, alors, je pense quand même que le fait qu'il dessine l'aide beaucoup Non, pour de bon, je lui disais que c'était facile pour lui parce que comme il dessinait, il engageait le corps et qu'en réalité, je pense que ça matche bien avec la dimension cognitive des échanges et je suis très admirative voilà, de la force de sa restitution. Voilà, donc, alors, après lui avoir
mais,
dit...
Mais disant ça, il faut clouer au pilori toutes les générations d'instituteurs qui ont empêché les dessinateurs de dessiner dans les marges, voire d'investir la page en entier. Parce qu'effectivement, mais c'est peut-être la faute à Aristote, quoi. C'est cette façon de dire, bon, on commence par avoir une image, et puis après on arrive au concept. Et c'est une hiérarchisation fausse dont vous faites tous l'expérience. Et donc, il faut en revenir à... Je veux pas dire en même temps, mais quand même, quoi.
Oui, je crois que les exemples l'ont bien montré. Alors, donc, j'enchaîne un petit peu, puisque tu vas bientôt partir, et que tu entends un tout petit peu ce que je dis. Donc, voilà, moi, j'ai été vraiment... Donc, je remercie vraiment tous les intervenantes et intervenants pour la richesse de leurs propositions, très différentes. C'était une première richesse, mais ensuite, dans les propositions faites, il y avait vraiment beaucoup de choses passionnantes. Les questions d'Olivier sont allées dans ce sens, c'est-à-dire du côté vraiment de l'innovation pédagogique. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de voir comment des contextes difficiles l'avaient rendu possible. Donc, bon, ça c'est les petites parties positives du confinement, mais bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce soit aussi pour le dispositif aussi, la première chose qui est faite, c'est qu'une fois qu'on a un dispositif comme ça, dont on peut mesurer la richesse, c'est d'avoir envie de l'élargir. Donc on est bien ici dans une des valeurs fortes des établissements publics de plus en plus, il y a la valeur d'inclusivité et on voit bien qu'en réalité quand on propose un dispositif innovant en pensant à un public plus spécifique en lien avec des difficultés, en réalité ça va pouvoir nourrir tout le monde. Donc ça c'est vraiment la première chose qui m'a marquée. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors on l'avait déjà un petit peu avec les interventions d'hier et je sais que Viviane Allary en particulier l'avait noté, c'est-à-dire que le fait qu'elle s'était prêtée au jeu en ne dessinant pas elle-même. Et voilà, donc ce que j'ai vraiment apprécié dans la mise en commun qui a été faite, c'est cette notion d'humilité dans la démarche des apprenants. Donc on voit bien que ça a été très théorisé par notre collègue à distance, justement en lien avec tout ce qui peut être théorisé en sociaux. Et donc on voit que ça va favoriser tout ce qui est horizontal des échanges, tout ce qui va être aussi transmission de pair à pair, donc ça c'est vraiment quelque chose je crois d'essentiel. Et ce que j'ai aimé aussi, et donc là ça fait aussi le lien avec le grand témoin à mes côtés, c'est-à-dire qu'en réalité on l'a peut-être moins abordé, mais ça a été dit par Lucie Grossard à un moment donné, c'est en voulant créer un espace à distance mais qui générait un dispositif malgré tout derrière l'écran différent, il s'agissait de réintégrer du corps. Et je pense que dans le dessin, dans cette mise en récit spécifique texte et image, il y a ce rapport au corps. Donc là, moi par exemple, pour prendre mes notes, en sachant que je devais être jouer ce rôle qui est pas fréquent pour moi, j'ai pas pris mes notes à l'ordi, j'avais besoin de passer par l'écriture du corps, et voilà, donc on sait bien qu'entre l'écriture et l'image, il y a tous ces liens-là, je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça amène à l'autre élément fondamental qui montre les enjeux de ces innovations pédagogiques, c'est tout ce qui a été dit du côté de l'appropriation. On voit bien qu'à un moment donné, il y a des concepts, il y a une exigence des concepts ou alors un protocole de TP à connaître, l'histoire de l'art ou quelque chose de thématique très précis à restituer. Mais en réalité, on voit bien que la mise en récit texte-image va amener une appropriation totalement personnelle qui va favoriser l'apprentissage au long cours. Là, il y a la question de rythme que je trouve intéressante, qui a été évoquée aussi par Corinne Faucheux de manière spécifique, puisqu'elle a parlé du rythme de l'apprenant qui pouvait revenir sur la lecture. Mais en réalité, on voit que cette question du rythme, elle va être fondamentale aussi pour le créateur, la créatrice de BD. Alors je le prends évidemment pas dans la même manière, mais on voit bien qu'il va y avoir dans la mise en image, dans la mise en récit, cette sélection des données et donc cette question de découpage qui va être essentielle. Alors, regarde un petit peu la montre, désolée. Donc, en fait, je trouvais que c'était ça qui était vraiment intéressant, c'est-à-dire que, au départ, la bande dessinée, elle peut être utilisée pour des raisons qui semblent, au départ, d'accessibilité, de lisibilité, de facilité, de dimension ludique, alors qu'en réalité, on a vu à quel point c'était un objet complexe. Et qui peut assumer sa complexité. Donc là, on rejoint l'innovation pédagogique aussi, puisque finalement, la question des erreurs dans le processus aussi va être quelque chose d'important. Et on voit bien qu'on va être dans ce type d'apprentissage par l'erreur que la bande dessinée va permettre de montrer, puisque ce qui est intéressant avec, en plus, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en réalité, on peut exploiter les erreurs. Thomas Véry l'a dit hier, pour sa bande dessinée, mais en réalité, dans tout ce processus d'apprentissage aussi, on peut le voir.
En plus, les frontières de la bande dessinée sont assez poreuses, et moi je ne sais pas où commence, ni dans le temps, ni dans l'espace, et où finit la bande dessinée. Et c'est vrai que si on regarde le travail d'un graphiste comme Pierre Faucheux qui met en scène du théâtre, pour ceux qui veulent voir les épiphanies de Pichette, eh ben, il y a certaines pages où je me dis mais c'est de la bande dessinée dans la façon dont il articule d'un coup un dialogue en l'associant à un logo, où il y a une façon de rythmer aussi la page. Et depuis toujours, même pour les publications scientifiques, il y a un graphiste qui intervient pour rendre lisible et la bande dessinée a à voir aussi avec ce travail de lisibilisation, de facilitation, et donc c'est un pas supplémentaire.
En fait, c'est toute la question de la cohérence d'un propos qu'on souhaite à tenir, c'est-à-dire une espèce d'adéquation entre forme et fond, mais voilà comment à chaque fois finalement les choses vont être maîtrisées dans le propos. Et j'ai beaucoup aimé, ça a été dit plusieurs fois aussi, mais comment finalement c'est cette interface entre l'auteur, l'autrice, et d'autre part le lecteur, la lectrice, cette intelligence-là, et laisser la place à l'imaginaire, à la réception de l'autre, et ce qui est quelque chose dans un discours, dans une communication absolument essentielle.
Tout à fait, le rapport entre fond et forme, et Philippe l'abordait avec ses étudiants, où d'un coup on avait quelque chose qui venait accompagner le fond et qui du coup rendait pertinent l'ensemble de la démarche. Et c'est vrai que je montre aussi régulièrement à mes élèves le travail de El Bueno de Cutlas de Calpurno, qui est un récit affreux de western avec le Ku Klux Klan, des scalps, des viols, quelque chose d'horrible, mais dessiné en bâton. Et le 15e degré apparaît justement parce qu'il y a cette mise en distance. Et n'importe quel, entre guillemets, bon dessinateur rendrait le récit absolument obscène, là où justement ce décalage... Donc jouer aussi avec des formes, ce choix des formes est aussi très important.
Alors je crois que je vais garder le micro toute seule.
Merci, désolé. Merci pour tout et pour cette invitation. Merci.